Matin.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Invité un peu exceptionnel aujourd'hui, un Anglais, Joseph Knox, l'écrivain de Polar, est chez nous pour parler d'un roman très particulier. Visite de bibliothèque, celle de Laure Adler aujourd'hui. Ensuite, on rassemble toute l'équipe, vous savez, pour de bonnes idées de lecture, BD, jeunesse et roman. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Vous connaissez la narrative non-fiction en bon français, on en a déjà parlé ici, de Sang-Froid, de Truman Capote ou L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Un auteur qui s'empare d'une affaire, une vraie, quand je dis un auteur, un écrivain, mais avec les codes du roman, avec les codes de la fiction. Eh bien, mon invité de cette semaine a inversé le processus. Il a écrit un roman, tout est faux, mais avec les codes de la narrative non-fiction. Le livre, c'est True Crime Story aux éditions du Masque. L'auteur, c'est Joseph Knox. Il est là, il arrive, mais je vous raconte le début. C'est une histoire de disparition mystérieuse. Manchester, 17 décembre 2011. Zoé Nolan, 19 ans, quitte la tour de sa résidence universitaire à l'aube. Il y avait une fête et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Fait intéressant, ou insignifiant peut-être, une alarme incendie s'est déclenchée juste avant. Il y a bien une enquête, mais rien. Pas d'indice, rien du tout. On abandonne. Quelques années plus tard, longtemps, 7 ans, Evelyn Mitchell, une romancière, se met à enquêter. Elle tient un grand livre de narrative non-fiction, justement. Elle en fait part à son ami Joseph Knox, qui est ici avec moi, qu'on va saluer dans un instant. Joseph traîne un peu, mais ils échangent des mails. Et un jour, Evelyn disparaît elle aussi. Et si les deux affaires étaient liées? Et si Evelyn avait disparu parce que justement, elle allait découvrir la vérité? Joseph Knox reprend tout depuis le début. Et ce livre, ce sont les pièces du dossier. Bonjour Joseph Knox.
Hello, thank you for having me.
Merci, merci pour votre accueil.
Et bonjour Fabienne Gondran, merci pour l'interprétation en simultané, c'est pas facile. J'en profite pour dire que la traduction du livre est de Jean Hesch, grand traducteur aussi. Joseph Knox, donc vous êtes le héros de votre propre roman. Pourquoi ?
I'm not sure hero is the right
word. Je suis pas sûr que le mot de héros soit le bon. Si l'on s'en tient au Joseph Knox que je vois dans ce livre. L'idée du Joseph Knox de ce livre était davantage une tentative d'écrire sur l'époque. Je ne cessais d'entendre parler d'hommes qui s'emparaient des histoires des femmes, du male gaze et du male writing, et tout particulièrement de cet accent très masculin qu'il y avait dans la littérature policière. Les auteurs de policiers gagnent leur vie et fort bien en tuant des jeunes femmes.
And that certainly happened in my books
et
as
c'est
well,
ce qui se passe effectivement dans mon livre.
Et
je voulais donner du sens à tout ça et déposer ces problématiques sur la porte, sur le seuil de Joseph Knox. C'est pour ça qu'on le présente comme un personnage problématique quand on le rencontre à l'ouverture du livre. C'est par le truchement d'une note de l'éditrice qui annonce que la maison l'a lâché de manière très radicale parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des écarts entre son compte-rendu de l'histoire et de la réalité. Et donc, à partir de là, j'ai posé le personnage et on commence à dérouler l'histoire de la disparition de cette jeune femme.
Mais oui, justement. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que donc, dans le roman, Joseph Knox méprise un peu au début le travail d'Evelyn, et puis quand elle disparaît, que ça devient intéressant, et qu'il finalement lit ce qu'elle lui avait déjà envoyé, il se dit « Oh là, mais il y a un truc !» Et c'est lui qui va en faire son miel et qui va récupérer tout ça. C'est pour ça que vous parliez du male gaze, etc. Le fait de récupérer le travail d'une femme, mais avant, juste après l'avoir méprisé. Bon, mais pourquoi vous mettez Joseph Knox dans ce cas-là et comment vous faisiez? Vous étiez un comédien? Je signale qu'il est beaucoup plus sympathique qu'il en a l'air dans le livre, quand on le voit en vrai. Mais c'est comme si Gary Oldman avait dit « Non, je vais jouer Dracula, mais on ne dira pas que c'est Dracula, on dira que c'est Gary Oldman. » Ce n'est pas un monstre non plus dans le roman, mais...
That's really a true observation.
Je pense que l'observation est juste.
An interesting thing about becoming an author for
me was that ce qui a été intéressant pour moi en devenant auteur, c'est que j'ai dû créer une personnalité pour devenir moi-même. Dans mon esprit, Joseph Knox est autant un personnage de fiction que d'autres personnages qui sont sortis de ma plume, d'une certaine manière. Et quand je me suis retrouvé face à ce livre, et à l'origine, Joseph Knox n'apparaissait pas dedans. C'était l'histoire très claire et nette de cette jeune femme qui disparaissait, des amis, de la famille, autour, des souvenirs, de l'histoire. Mais je me suis rendu compte que je montrais du doigt tous ces gens et que je tirais des conclusions tout à fait cyniques sur le genre que j'aimais et sur le true crime. Et je me suis dit, ça risque de paraître très éloigné, comme si je me mettais un petit peu en dehors des choses, comme si je n'étais pas sur la sellette. Et je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de me dire, non, ce type fait partie du problème. S'il essaye de s'en défaire à ce point, c'est qu'il en fait partie du problème. Il pense qu'il est cool, qu'il va réussir à dénouer les fils de l'affaire. Il prend de la drogue, il ment sur plusieurs sujets, c'est un manipulateur. Ce qui, en fin de compte, est bien le boulot du romancier. Je ne sais pas si le terme d'inconfort est juste, mais il faut faire très attention quand on écrit un livre de conserver une sorte de neutralité. On est le gardien de ce territoire. Et ce que vous dites a valeur de vérité. Et ça me semblait très intéressant dans l'univers de mon book que Joseph Knox ne soit pas le dieu dans le ciel, mais de le ramener sur terre et de le traîner un peu dans la boue. Et de dire, ce type-là, il n'est pas meilleur que les autres.
Et
tout d'abord, c'était une conversation que personne n'avait en Grande-Bretagne, dans la littérature du polar à ce moment-là, plutôt des questions que tout le monde évitait. Et bien des gens... Bien évidemment,
Joseph Knox in the book is what we would call at home.
Joseph Knox, dans le livre, c'est ce qu'on appellerait à la maison un git. C'est un.
It's probably an impossible word to translate, but it just means a difficult person.
Un vieux schnock. Un vieux schnock, c'est vraiment quelqu'un de problématique.
Ben, je reformule mon introduction parce que c'est pas effectivement un roman qui reprend les codes uniquement de la narrative non-fiction, mais aussi ceux de l'auto-édition. Donc, et on se retrouve dans un instant pour plonger au cœur de cette histoire sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, vous êtes bien sur Europe 1 avec Fabienne Gondran qui interprète et traduit en live Joseph Knox, grand écrivain de polar anglais et qui publie True Crime Story aux éditions du Masque. Je vous résume, mais c'est pas facile, accrochez-vous. C'est l'affaire Zoé Nolan. Une affaire, donc une disparition. Zoé donc, a disparu après une fête. Elle était étudiante, 19 ans, à Manchester. Aucun indice, rien du tout, l'affaire est classée, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. 7 ans plus tard, Evelyn Mitchell reprend le dossier, c'est une romancière, une écrivaine, qui s'empare de cette affaire, qui pense qu'elle a un grand livre de narrative non-fiction, c'est-à-dire ces écrivains qui s'emparent d'un fait divers et qui racontent comme ils le savent le faire, avec les codes du roman, tout en restant très très vrai, toujours dans la vérité, comme un journaliste. C'est très particulier comme exercice, mais c'est ce qui marche beaucoup en ce moment. C'est une grosse tendance en ce moment dans la littérature, même si ça a débuté il y a longtemps avec Truman Capote et d'autres. Et ensuite... En fait, le roman qu'on a là dans les mains, c'est Joseph Knox, l'auteur, qui a repris cette affaire parce qu'Evelyn Mitchell a disparu. Mais il avait plein de mails d'Evelyn Mitchell et il avait tout son matériau, des enregistrements, des rencontres avec les témoins, des articles de journaux. L'éditeur s'en mêle aussi, donc il y a une structure de roman assez incroyable, parfaitement claire. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous demander, Joseph Knox, vous êtes toujours avec nous, c'est... Moi, en fait, quand j'ai vu le communiqué de presse, quand j'ai reçu le bouquin, je me suis dit « Ah d'accord, c'est complètement dingue !» C'est-à-dire qu'en fait, l'affaire Zoé Nolan, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire comme nous, on a Xavier Dupont de Ligonnès et d'autres, Et en fait, ce Joseph Knox s'en empare sans enquêter lui-même, mais en faisant un roman à partir d'une histoire vraie et en résolvant cette affaire en faisant un roman. Je me suis dit, c'est complètement dingue, parce que s'il n'a pas résolu l'affaire, les proches de la famille, tout ça, comment il s'en est sorti? C'est pas possible. Est-ce que, comment on fait, en fait, pour faire de la fausse narrative non-fiction? Et pourquoi, mais il y a deux questions en une, vous répondrez à celle que vous voulez en premier, pourquoi vous n'avez pas carrément enquêté sur une affaire en cours pour faire de la narrative non-fiction de la vraie?
There's a really the honest answer to that is that
la réponse
I did not
est
want
honnête, c'est que je ne voulais pas m'impliquer avec des familles en deuil, avec des gens que j'aurais pu blesser avec mes mots. Donc, je voulais être tout à fait libérée de ça. Et à un autre niveau, et j'ai beaucoup pensé à mon roman de true crime préféré à moi, qui est In Cold Blood, de Truman Capote. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est clairement une œuvre d'art, un des livres les plus incroyables qui n'ait jamais été écrit, et qui a donné lieu à cet appétit pour le true crime qui n'a jamais décéléré depuis. Mais tant de choses dans ce livre sont remises en cause. Et quand on le lit, on se dit, mon Dieu, c'est tellement parfait, c'est tellement ouvragé, avec élégance, avec éloquence, ça en dit tant sur la condition humaine. C'est presque trop parfait. Comment ça a pu se passer? Et puis, on creuse l'affaire, et puis on se rend compte que, oh, mais ça ne s'est pas passé.
Capote went on to write a book which he also claimed was completely true.
A écrit par la suite un autre livre dont il prétendait qu'il était vrai alors qu'il n'y avait aucun fondement dans la réalité. Et il continuait à affirmer que chaque mot en était vrai, de même qu'il le disait qu'In Cold Blood était absolument vrai.
Et
ce qui est en jeu là est intéressant. C'est que la plupart des romanciers que je connais,
they are not the people I would go to and say,
ce ne sont pas des gens que j'irais voir en leur demandant « Dis donc, tu te souviens ce qui s'est passé hier ou avant-hier ?» Parce qu'ils voient les choses différemment.
Ils transforment.
Oui.
Ils filtrent la réalité et la rendent de manière totalement différente. Et ma compagne, ma partenaire, quand je commence à raconter une histoire, me dit « mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça » parce que immédiatement, moi, j'en fais de la fiction. Dès l'instant où j'ai quelque chose en tête, ça n'est plus vrai.
Donc,
je me disais plus explicitement, quand je pensais à Truman Capote et de sang-froid, que c'est une histoire de vrai crime qui, en fait, est un vrai roman. Et donc, moi, j'ai voulu faire l'inverse.
Et c'est
la question intéressante que l'on peut se poser sur l'authenticité des écrits.
The police often say that eyewitnesses are amongst some of the most useless because.
Et la police dit souvent que les témoins oculaires servent souvent bien absolument à rien parce que eux-mêmes ont tendance à rendre une réalité qu'ils ont vue fictive, à la fictionaliser. Et dans les livres, c'est pareil. Tout le monde se souvient des choses de manière différente. Certains parce qu'ils prenaient des substances, d'autres parce qu'ils avaient honte. Et tous donnent une version fictionalisée de la réalité. Et c'est la même chose qui se passe dans les synapses de leur cerveau que quand moi je commence à écrire. Et je crois que l'enchevêtrement entre le mensonge et la fiction est un lieu qui a été très peu exploré et qui est très, très passionnant. Et je n'ai fait que gratter la surface de cette question.
Mais justement, parce que c'est ça ce qui est terrible quand on est écrivain de polar aujourd'hui, et quand on est lecteur aussi, c'est qu'on a l'impression que maintenant on est arrivé à un tel niveau de sophistication des polars qu'on peut pas aller au-dessus, sinon ça devient une thèse en physique quantique, quoi. Ça devient, il y a des trucs, des polars maintenant avec des tiroirs, avec l'intérieur des tiroirs, etc. Ça devient compliqué. Et vous, j'ai l'impression que vous avez voulu faire autrement, c'est-à-dire reboucler, revenir au whodunit à l'ancienne, c'est-à-dire Sherlock Holmes, Agatha Christie, en le mêlant avec le truc très moderne de la narrative non-fiction. Et plutôt que d'aller encore plus loin dans la sophistication de l'intrigue, vous êtes dit, c'est plutôt la méthode que je vais changer. Est-ce que vous aviez envie aussi de revenir à l'origine? C'est-à-dire, quand je dis whodunit, c'est qu'il y a des voix les unes après les autres, des passages très courts comme ça, et on sait que c'est forcément l'un d'eux. On se doute. On n'est pas sûr, mais on se doute.
The fundamental thing I really wanted
ce que je voulais vraiment faire, fondamentalement, avec ce livre, je trouvais que la prose de mes trois premiers romans, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, était très sombre, poétique, et peut-être que je me donnait un petit peu trop de mal. Et j'ai pensé que l'honnêteté des dialogues permettrait de revenir à quelque chose de plus pur. Et à partir de là, j'ai changé mon écriture. Avant, je passais beaucoup de temps à placer une scène, à parler de la météo, de la taille des nuages et de tout ça. Je suis revenu à quelque chose de plus épuré. Maintenant, je me rends compte que trop de détails peuvent faire du mal à l'histoire et la camoufler, la dissimuler un peu. Donc, il a fallu que je me suis débarrassée de tout cet habillage poétique. Et donc, la conversation qui se dit à ce moment-là est plus directe. Alors qu'en règle générale, on essaye de retenir quelque chose sur 300 pages. Ce qui était vraiment agréable à raconter dans cette histoire, c'est que tout le monde essaye de la raconter. Et donc, que nous, on tire les fils en essayant de savoir qui ment, qui fait des commérages, qui est le faux ami, en qui je peux avoir confiance. Et je laisse beaucoup, beaucoup le lecteur décider.
Eh bien justement, j'ai envie de les rencontrer, et Kim en particulier, il faut absolument qu'on en parle, vous êtes toujours sur Europe 1, à tout de suite.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue toujours avec Joseph Knox sur Europe 1 pour True Crime Story. C'est une sorte de roman, quand on le prend, on a l'impression que c'est de la narrative non-fiction, quoi, un livre de journaliste écrivain comme ça, sur une vraie affaire, mais non, c'est bien un roman aux éditions du Masque, et c'est l'histoire de Joseph Knox, c'est lui qui nous raconte. Il s'est emparé du travail d'une de ses consoeurs, Evelyn Mitchell, qui a disparu en enquêtant sur une affaire, l'affaire Zoé Nolan, l'histoire d'une étudiante de 19 ans qui a disparu à Manchester après une fête. Il y avait eu une alerte incendie qui s'est déclenchée juste avant. Puis il y a eu plein d'autres choses. Et ça, toutes ces choses-là, on les apprend en écoutant les entretiens avec Sally Nolan, la mère, Kimberly Nolan, la sœur, Andrew, Liu Wei, des copains, Sarah, Fintan Murphy. Quelques lignes à chaque fois, des prises de parole courtes. Donc c'est-à-dire, c'est pas chapitre par chapitre, comme ça, c'est 10 lignes, 12 lignes, puis on passe au suivant. Parfois, ça se contredit. C'est très étrange, mais je me suis dit surtout, comment vous avez mis ça en place? Est-ce que vous avez écrit tous les témoignages et ensuite vous les avez mixés? Ou est-ce que vous avez écrit les uns après les autres?
The circumstances of writing the book were kind of a crisis.
J'ai écrit dans une sorte de crise. Et je pense que sans cette crise, je n'aurais pas écrit ce livre. Et la crise était que j'avais annoncer publiquement que j'allais arrêter la série des Hayden Waits après le troisième et que j'allais entamer quelque chose de nouveau sans savoir du tout ce que c'était. Et donc, j'ai passé un an à écrire un roman dont j'étais convaincue que ça serait mon chef-d'œuvre, et ça a été un énorme ratage. Et c'était un bouquin très mauvais, prétention, et c'était moi qui retenais toutes les infos, j'ai écrit la mauvaise poésie, tout ce qu'il ne fallait pas, c'était raté. Et donc je suis arrivée à la fin, et donc je savais que je ne voulais pas le publier, et donc j'avais devant moi 4 mois. Et la seule idée que j'avais, c'était une idée folle que j'avais eue 10 ans avant même de devenir écrivain. Et j'avais lu le livre d'entretien de l'auteur des Werewolves de Londres, des loups-garous de Londres. Et ce sont des entretiens qu'il mène avec plein de gens, mais c'est presque comme une conversation entre ces gens. Et parfois, on arrive à la fin d'un chapitre, et c'est son ex-femme qui l'a structuré. Lui, pendant ce temps, il est sur Facebook, et donc on se rend compte de la tonalité des différents entretiens. C'était disjoint, c'était distendu à cause de ça. Et je me suis dit, ce serait une super idée pour écrire un roman. Alors, c'était, je ne voulais pas le faire tout de suite, donc j'ai d'abord écrit la trilogie, puis ce bouquin qui n'a pas fonctionné. Et donc, je me suis retrouvé, j'avais pas le temps de me sortir de cette ornière, il fallait que j'avance. Et donc, à cause de ça, j'ai dû écrire dans l'ordre dans lequel ça apparaît dans le bouquin. Et c'était tellement jubilatoire et jouissif. Les trois premiers romans, c'était écrit à la première personne, un seul personnage narratif. Et j'avais toutes ces voix en moi qui attendaient de sortir. Et c'était presque bouleversant leur présence, de cette envie de diversifier et de aussi de montrer ce que j'étais capable de faire en tant qu'auteur. Et je, souvent dans la littérature policière, l'aptitude du romancier peut un peu disparaître sous le vernis de l'histoire. Et j'avais l'impression que, au gré de la trilogie, je m'étais améliorée, j'avais fait des progrès en tant qu'auteur et que j'étais capable de me frotter à un projet de cette ampleur.
Il faut qu'on parle de Kim, la sœur de Zoé, la disparue, puisque son histoire est complètement dingue. Elle raconte qu'elle a aussi été kidnappée juste un peu avant la disparition de sa sœur. Elle raconte le kidnapping, en plus c'était hardcore, mais elle a été libérée assez vite en fait. Et elle ne l'a pas dit tout de suite, et voilà, c'est comme ça. Puis finalement elle l'a dit après, puis il y avait d'autres trucs qu'elle n'avait pas dit, etc. Et elle est très étrange, mais surtout c'est too much. Et on se dit... En fait, on se dit pas, c'est elle la coupable, évidemment, mais on se dit, ça, c'est sa cape de torero, c'est-à-dire qu'il essaye de nous créer quasiment une histoire qui aurait valu un roman pour Kim et pour nous emmener ailleurs. À quoi elle sert, cette Kim? Et pourquoi vous l'avez faite si too much?
It just seems so interesting to me.
Il me semble intéressant. Je savais que le livre partirait de la disparition d'une jeune femme et que sa voix serait absente de l'histoire. Donc, le plus proche que je pourrais trouver, c'était sa sœur jumelle. Et c'était vraiment un calcul de ma part. J'aimais aussi la perversion d'avoir des jumelles dans un polar. Parce que dès l'instant où on attend jumelles, on pense,
c'est interdit.
On pense à toutes sortes d'histoires.
C'est interdit par le code du polar, ça, maintenant. Que ce soit la résolution, qu'en fait, c'était un jumeau ou une jumelle.
Exactement. C'est tellement un subterfuge facile. Donc j'adorais l'idée de m'en emparer. Mais mes jumelles n'apparaissent jamais sur la même page. Donc il n'y a pas la possibilité de les intervertir. Ce qui était plus intéressant, c'était la dynamique entre les deux. Et donc Zoé, celle qui a disparu, a été un peu... on a voulu en faire une star. Elle a été élevée dans ce sens. Là, c'est une bonne chanteuse, mais dans la vraie vie, il faut bien plus que quelques petits talents pour percer. Sa sœur s'en rend compte, mais c'est le genre de personne... dont la trajectoire dans le livre dépasse ça. Et la tragédie et le traumatisme de la disparition de sa sœur dans sa vie, elle ne pourra jamais vraiment s'en remettre. Et j'espère que la trajectoire du livre, c'est que Kimberly commence à voir au-delà des limites qu'elle s'est imposées à elle-même. Du carcan qu'elle s'est imposé. Et donc, ces deux personnages en particulier, mais tous les personnages du livre, font partie de ma propre personnalité. Et en fin de compte, pour boucler la boucle, c'est une autre grande raison qui fait que Joseph Knox est bien plus flamboyant, qui vole un peu la vedette, parce que tous les autres personnages traversent des choses difficiles, se retrouvent dans des situations étranges, sont écrasés par le remords. C'est tous ces personnages, c'est moi. Et la personne que je suis le moins dans ce livre, c'est Joseph Knox. Et c'est l'ultime subterfuge. Et tout le monde regarde là-haut, alors que moi, je suis entre les lignes, partout ailleurs, dans toutes les tragédies, dans tous les traumatismes.
Et ça donne True Crime Story. C'est aux éditions du Masque. Merci beaucoup, Joseph Knox. Et merci à vous, Fabienne Gondran. Vous avez deux cerveaux, comment ça se passe ?
Je sais pas, ils se parlent entre eux, moi je les vois pas.
Merci beaucoup, à bientôt. Et dans un instant, nous partons visiter les livres de Laure Adler.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
C'est une grande dame, très impressionnante. Laure Adler a publié un nouveau livre à la dernière rentrée littéraire, Françoise Héritier, Le goût des autres, chez Albin Michel. Je ne l'avais jamais rencontrée, je me suis dit que c'était l'occasion. Allons voir ensemble de quel livre elle se chauffe. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bibliothèque, parmi vos livres, parce que là, je suis à la fois dans la cuisine, dans la bibliothèque et dans le salon.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est tout ouvert et c'est un peu ramassé comme ça et on est entouré de livres. Mais j'ai une petite appréhension parce que dans le salon que j'arrive à voir d'ici, je suis donc dans la cuisine, je rappelle, il y a que des beaux livres, des livres d'art. Et à ma gauche, juste devant la cuisine, c'est étrange, il y a une énorme bibliothèque uniquement composée de pléiades. J'en ai vu des... Il y a toujours des pléiades dans les bibliothèques, dans les 250 que j'ai fait, mais j'en ai jamais vu autant d'un coup.
Ben, c'est une vie. C'est que je suis très vieille, donc...
c'est pas ce que je voulais
à
dire.
À chaque fois que j'ai envie... d'avoir l'œuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine que j'aime, c'est vrai que je l'aime avoir en pléiade. C'est un peu ridicule parce que je ne les lis pas, les pléiades. Mais par contre, c'est fait exprès qu'elles soient dans la cuisine parce que pour moi, j'aime bien les regarder. Mais en fait, je ne les lis pas.
C'est un conservatoire.
Non, pas du tout, pas du tout. Parce que vous voyez, il y a des espèces de... Il y a des bonbons au milieu des Pléiades, il y a des autels, ça c'est une vierge qui vient du fin fond du Brésil, ça c'est des jumeaux qui viennent d'Afrique.
C'est étonnant ça.
Ça c'est une sculptrice que j'avais découvert au fin fond de l'Afrique. Donc vous voyez que ces Pléiades sont accompagnées de plein de choses vivantes. Mais alors pour revenir aux Pléiades, c'est très bizarre parce que pour moi les Pléiades, c'est les avoir quelque part dans l'espace de mon appartement, qui n'est pas très grand, parce que depuis la fin de l'enfance, la Pléiade, c'est l'accès à la culture et à la lecture. C'est ma grand-mère qui, je pense, à l'âge de 10-11 ans, m'a offert pour mon anniversaire une première Pléiade.
Vous vous souvenez ou pas ?
Oui, c'était la Comtesse de Ségur. Ah. C'était pas très original, mais en tout cas... Je lui ai voué une reconnaissance infinie parce que j'avais l'impression d'avoir passé un cap très, très important dans mon enfance avec cette Pléiade. Donc, la Pléiade, c'est un trésor intime. Et depuis, quand j'ai eu des enfants, à chaque anniversaire, je leur offrais une Pléiade. Et maintenant que je suis grand-mère, ben, tous mes petits-enfants ont leur Pléiade à chaque anniversaire. Donc, voilà, c'est pas pour faire chic.
Je me permets, je profane le temple.
Ouais.
Je vais déplacer quelques objets pour pouvoir...
Oui, ben vous voyez, il y a
d'ailleurs,
ce
que ça fait
tableaux,
comme des structures, on dirait
des
vraiment
tableaux,
un temple.
Des bougies.
Quoi, avec des structures
je
de pléiades.
Je ne prie pas devant mes pléiades tous les soirs ni tous les matins quand je me réveille.
Non, mais je veux dire, ça fait,
c'est
parfois elles sont sur la tranche, parfois
sacré.
Elles sont à plat. Donc à plat, mais en pile.
Oui,
donc,
oui.
Ça crée comme des colonnes. Mais ce que je cherche, moi, évidemment, c'est la Comtesse de Ségur que votre grand-mère vous a offert. Est-ce que vous l'avez là ou est-ce que...
Oui, elle est quelque part.
C'est classé par ordre alphabétique ou pas ?
Non, je crois pas.
Non, quand même pas.
Non, c'est très bordélique. Tout est très bordélique.
Merveilleux de Dragon Ball, dessiné par vos petits-enfants, j'imagine.
Oui.
Saint-Augustin, Stéphane Zweig. Non, mais il y a toute la
collecte. Saint-Augustin, c'est très important pour moi.
C'est pour ça que je disais que j'avais un peu d'appréhension en voyant vos livres ici, parce que je ne vois pas de livres de poche, pas de romans.
Ben là, ils sont sur la table de chevet, près du lit. Mais je ne vais pas vous emmener dans ma chambre.
C'est vrai, on ne peut pas ?
Oh ben non, parce que c'est le bordel là-bas.
Mais il y a quoi sur la table de chevet ?
Ben d'abord, il y a la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que je lis tous les matins au réveil.
Depuis ?
Depuis, je crois, 15 ou 16 ans.
D'accord. Comment ça,
Donc, ça fait plusieurs fois que je l'ai lu.
Comment ça a
Mais je recommence.
Qu'est-ce que vous y cherchez et comment ça a commencé?
En fait, ça a commencé par une très belle aventure philosophique et littéraire. Ça a commencé par la volonté qu'a eue Frédéric Boyer, qui est à la fois écrivain, théologien,
traducteur.
Il a fait appel...
GPOL.
Absolument, à tout un collectif de poètes et d'écrivains pour traduire l'Ancien Testament de manière plus proche de nous et pas simplement avec les grands biblistes de Jérusalem. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais, comme on dit, en responsabilité à France Culture. J'avais trouvé cette idée absolument merveilleuse et on s'était associés pour faire lire des fragments de l'Ancien Testament à l'antenne. Et depuis, ben, j'ai cet Ancien Testament.
Ah, cette version-là ?
Cette version-là, que je lis et que je relis, parce que c'est une source à la fois d'étonnement, d'émerveillement, de questionnement tous les jours. Et plus je lis, moins je comprends, mais ça me va très bien.
Je ne vous savais pas si mystique, parce que vous nous avez dit
mystique,
aussi que vous aviez une passion pour Saint-Augustin.
Ah ben oui, mais Saint-Augustin, avant d'être saint, il était Augustin. Et d'autre part, il raconte dans ce livre merveilleux qui peut ouvrir à de nouveaux chemins de compréhension des autres, mais aussi de soi-même, comment il a été un grand pécheur, comment il a eu beaucoup d'amour avant d'avoir cette révélation. Et donc, c'est le récit d'une conversion, mais c'est aussi le récit de la continuité d'une existence dans le monde. Et c'est ça qui m'intéresse dans Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, figurez-vous, ça fait bête de le dire, mais c'est la vérité. Saint-Augustin, j'ai commencé à le comprendre grâce à Gérard Depardieu. Parce que Saint-Augustin a été lu à Notre-Dame de Paris, il y a très longtemps, un dimanche matin, par Gérard Depardieu. Et moi, j'ai une passion depuis longtemps pour la voix de Gérard Depardieu, que je trouve absolument extraordinaire, et que j'ai découvert par Marguerite Duras, puisque Marguerite Duras a été la première à faire jouer au cinéma Gérard Depardieu dans un de ses films. Et depuis, je suis très remuée par la voix de Depardieu. Et quand Depardieu a lu Saint-Augustin à Notre-Dame de Paris, ben je me suis précipitée pour acheter Saint-Augustin en livre de poche.
Il y a le feu, le rat de l'air. On prend lequel ?
Bon, celui qu'il y a devant, non ?
Ah bon ?
Bah oui, c'est...
Vous êtes sûr de toute façon ?
Tout livre recèle un mystère, un secret. Ah oui.
On prend n'importe lequel, peu importe, quoi.
Ah oui, oui. N'importe quel livre vous emmène très loin. Après, il y a des affiches. Ah, ben c'est pas mal.
Simone de Beauvoir, le premier qui tombe.
C'est pas moi qui vous ai guidé. Hein.
Simone de Beauvoir, c'est...
Ah bah écoutez, alors après, Augustin, Simone, vous avez la main heureuse. Hein. Parce qu'elle aussi, elle a changé ma vie, évidemment.
À quel moment ? Vous l'avez rencontrée à quel âge ?
Ah, mais je l'ai rencontrée bien plus tard.
Dans les livres, je veux dire.
Ah, dans les livres, à 17 ans. C'est très banal. Hein.
C'était un choc ou c'était...
Ah non, mais ce n'a pas été un choc, ça a été une révolution. J'ai plus été la même après avoir lu Simone de Beauvoir. J'ai compris que j'étais une fille, qu'elle allait devenir une femme, et que si je ne me battais pas pour essayer de continuer à être une fille qui allait devenir une femme et qu'il ne fallait pas que je suive les leçons de ma grand-mère et de ma mère, ben, y avait du boulot à faire. Donc Simone de Beauvoir a été... une ouverture au monde et Le deuxième sexe a été un livre vraiment fondateur de mon existence.
Vous avez la mémoire des lieux de lecture, c'est-à-dire vous vous souvenez exactement où vous étiez quand vous avez lu ce livre ?
Ah mais très bien. Pour la première fois, Simone de Beauvoir, oui, c'était à Clermont-Ferrand, dans ma chambre d'adolescente, enfin d'adolescente qui allait passer son baccalauréat avec un lit en fer peint en blanc et deux oreillers. Et je me souviens très, très bien de tout. Mais c'était l'influence que peut avoir un livre dans une vie. Mais je pense que je ne suis pas la seule.
Eh ben, j'ai bien fait de poser la question.
Mais c'est vous qui avez qui avait eu cette main-là qui est tombée sur Simone.
Oui, mais à la fois, il n'y a pas de hasard. Saint-Augustin, il est juste devant, en frontal, devant toute la structure de Pléiade et Simone de Beauvoir aussi. Merci beaucoup, Laura Adler.
Merci à vous. Hein.
À bientôt.
Et je rappelle, Françoise Héritier, Le goût des autres chez Albin Michel, c'est le livre de Laura Adler. Dans un instant, libraire et chroniqueur pour des livres. Encore, à tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Vous êtes toujours sur Europe 1, vous y êtes bien et encore mieux avec l'équipe de chroniqueurs qui s'est rassemblée, qui a travaillé pour vous donner des idées de lecture. Amandine Cole est là, de la librairie de Paris à Paris, place de Clichy. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Héloïse Goua, la chronique jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Et Sébastien Bordenave pour la bande dessinée.
Bonjour à tous, bonjour Nicolas.
Et on commence comme toujours, à tout seigneur, tout honneur, par le libraire. Et la libraire en l'occurrence, Amandine Cole, qu'est-ce que vous nous avez dégoté?
Alors c'est vraiment ça en plus. Hein. C'est un poche aux éditions 10-18. Elle s'appelle Laura Imai Messina et le livre s'appelle Ce que nous confions au vent. Donc elle est italienne et elle vit au Japon depuis 15-20 ans.
C'est très très japonais comme titre.
Et puis alors moi j'adore ce genre de choses en plus, dès que c'est un peu japonais.
Il y a un cerisier justement en fleurs sur
la
couverture.
Exactement, et en fait il y a surtout une petite cabine sur la couverture qu'on ne voit pas, et c'est de ça dont il va être question.
Un petit kiosque de square.
Exactement, donc ça c'est vraiment le pur livre de libraire, celui qu'on ne s'attendait pas à acheter, on le voit dans le magasin, dans la librairie. On regarde comme ça et on se dit « Ah mais ça, c'est la petite perle du libraire ». Et c'est vraiment ça, puisque moi, c'est mon ami et collègue Michael qui m'a dit « Tu devrais lire ça, c'est pour toi ». Et donc, on est après le terrible tsunami de 2011 au Japon. Et alors que de nombreuses personnes essayent de faire leur deuil, une journaliste, qui elle-même a perdu une partie de sa famille dans ce tsunami, découvre qu'il existe sur une petite colline, dans une région un petit peu reculée, comme ça, une cabine téléphonique avec un gros téléphone japonais.
Ah mais oui, j'en ai entendu parler.
Qui n'est relié à rien et on peut, à la force du vent, décrocher le combiné et appeler et parler aux gens qu'on aime.
Mais comment c'est possible?
C'est pas possible, mais non, c'est tout symbolique.
Pour évacuer son chagrin aussi.
Exactement.
Oh, le poète.
Voilà. D'accord. Et cet endroit-là est gardé, cet endroit-là, et il y a quelqu'un qui s'en occupe comme ça. Et autour de ce lieu, c'est toute une petite communauté de personnes qui ont beaucoup souffert, qui vont se retrouver. Et surtout, qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là où c'est très intéressant, c'est donc un livre sur le deuil, c'est un livre sur la reconstruction. Mais tout ne se passe pas en 5 minutes pour la jeune femme qui va la découvrir, qui va rencontrer d'autres personnes. Elle va passer plus d'un an et demi à se dire « Est-ce que j'y vais ?» Elle va regarder les autres, rentrer dans la cabine, décrocher le téléphone. Et elle va se dire « Est-ce que je le fais vraiment ?» Et alors qu'elle va retrouver un certain bonheur, elle va retrouver quelqu'un, elle va continuer à hésiter encore et à se demander si elle est vraiment capable de passer à autre chose. Et ce sont toutes ces petites étapes du deuil et ce temps qui est incompressible, qui est raconté avec beaucoup de finesse.
Mais ça existe, je crois, ce lieu existe. Téléphone du vent.
Exactement, elle en parle. Elle dit bien que ce n'est pas un lieu touristique où il n'est pas besoin d'aller avec son appareil photo.
Le pire, ce serait qu'il y ait un afflux de touristes comme ça qui viennent voir par curiosité, quoi.
Oui.
Ce serait moche.
C'est ce que je pense, elle n'aimerait pas. Après, vu le prix des billets pour aller au Japon, je crois qu'on est tranquille, hein, dans le monde entier.
Ce que nous confions au vent, c'est chez 10-18. Merci beaucoup Amandine. Héloïse Goua.
Oui, une édition restaurée de 2 livres pour enfants publiés en 1940. Vous connaissez peut-être, non pas parce que vous datez de 1940, mais parce qu'ils sont illustrés par Nathalie Parrin. C'est une artiste d'origine russe née en 1897. En fait, c'est elle qui a dessiné les tout premiers albums publiés par Père Castor et c'est magnifique. Ces 2 livres sont parfaits pour les histoires du soir, juste avant le dodo. Le premier s'intitule « Noix de coco et son ami ». L'autre, c'est « Le beau chardon » d'Ali Boron. Alors on commence avec Noix de coco. C'est un petit chiot tout brun de la forêt sauvage à qui il arrive une catastrophe. À cause d'un ouragan, le chien se retrouve tout seul, loin de sa maman et de toute sa famille. Alors pour apprendre à se nourrir, à combattre le froid et les dangers, Noix de coco décide de se chercher des amis dans la forêt. Sauf que les vrais amis ne courent pas tellement les forêts. Le jeune loup a l'air sympa, mais il refuse de partager son repas. Piki Plabu, c'est plutôt sympathique, mais elle est obligée de piquer pour survivre. Et ça, c'est vraiment pas commode, parce que ça fait mal, une piqûre de puce. Le lièvre est rempli de bonnes intentions, mais beaucoup trop froussard, hein, quand une buse pointe le bout de son bec. Bref, c'est la galère pour Noix de coco. Et contre toute attente, c'est un trappeur, un humain donc, qui va lui tendre la main et protéger ce petit chiot affaibli par toutes ses dernières rencontres éprouvantes. Et vous savez bien, vous commencez à me connaître, que je ne peux pas résister à une jolie histoire entre un homme et un chien. Donc j'ai beaucoup aimé
ce petit... road trip initiatique en fait.
Un petit peu. On passe au deuxième livre, Le beau chardon d'Ali Boron. J'adore ce titre. Est-ce que vous aimez les vacances, vous?
Je pensais, est-ce que vous aimez les chardons? Bon, moyen.
Moi j'aime bien quand l'auteur et le titre riment.
Oui, mais c'est pas du tout ma question.
Hein. Donc, je vous le dis.
Bon, vous aimez les vacances,
on
la réponse est oui.
On a répondu à côté, on a répondu.
Et ben, en tout cas, c'est pas le cas d'Ali Boron. Un petit âne gris, il déteste les vacances parce qu'à chaque fois que ses maîtres partent en voyage, il le laisse tout seul dans son pré. Bah, pour la simple et bonne raison que le chemin de fer n'a pas prévu de billets pour les ânes. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste à côté du pré où il s'ennuie qu'Ali Boron découvre un jour un beau chardon. Rose, c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien connu, les ânes adorent les chardons. Je rigole, je ne le savais pas avant hier. Ah bah voilà, je ne le savais pas, je ne suis pas spécialiste des ânes. La mauvaise nouvelle, c'est que ce chardon est derrière un fil barbelé. Mais Ali Boron s'alive tellement à l'idée de manger cette tige couverte d'épines qu'il va s'aventurer dans de dangereuses expériences. Et comme dirait Sébastien Bordenave, oui. Qui s'y frotte, s'y pique.
J'ai dit ça,
l'inventeur
en 1987.
C'est vous. Ces deux livres sont doux, ils sont rigolos, les dessins sont poétiques et même un peu nostalgiques. Hein, c'est à l'ancienne comme à l'époque de notre enfance, surtout de la vôtre, Nicolas. Noix de coco et son ami et Le beau chardon d'Ali Boron, c'est illustré par Nathalie Parrin et c'est publié chez Flammarion, Flammarion qui possède Père Castor.
Parfait, merci. Amandine ?
Moi, je les ai gardés, mais vieux albums du Père Castor. Ouais.
Mais et vous souvenez de cela ?
Non, je pense que moi, je suis la génération d'après.
Ouais, quand même.
Mais ils sont très beaux. Mais ouais, je les ai gardés, je m'en souviens et ça m'arrivait de les conseiller.
Quelle chance.
Voilà,
Sébastien Bordenave, puisqu'on parle d'illustration.
Oui, deux BD, une BD faussement naïve et une autre franchement déglinguée. La première BD s'appelle Jumelles, publiée chez Dargaud. Elle est de Florence Dupré de la Tour. Elle a une certaine constance, hein, cette Florence, parce qu'en 2016, elle sort une BD qui s'appelle Cruelle. En 2020, Pucelle. Et là, 2023, Jumelles.
Ah, c'est bien.
Voilà, vivement Truelle. Après son rapport aux animaux.
C'est conceptuel.
Voilà, oh, bravo. Après son rapport aux animaux, après son rapport au sexe, voici donc son rapport à sa sœur Jumelles. Une BD autobiographique où elle explique qu'elle ne nous livre pas la vérité, mais celle de ses souvenirs, de ses sensations, et ils sont passionnants à lire. Ainsi, elle décrit le monde de son enfance où le je n'existait pas. Elle s'appelle Florence, mais à la maison, on disait les jumelles à table. On disait Florence Bénédicte à table. Mmh. Le papa les appelle même Flore Bendite, comme si la fusion entre Florence et Bénédicte était totale. Mmh. Les cheminements psychologiques sont passionnants à suivre. Les anecdotes de famille sont croustillantes. Au début, on pourrait penser qu'on est un peu dans les triplés de Madame Figaro, mais non, pas du tout. Il y a ce qu'il faut de drôlerie cruelle. Bravo. C'est Jumelles de Florence Dupré. De la Tour chez Dargaud. La deuxième BD, elle s'appelle Chercher Charlie, chez Sarbacane de Emmanuel Moineau. 40 ans de carrière et quand on lit la BD, bah ça sent la maîtrise. C'est parti pour un double voyage géographique. On part pour New York et temporel. On est en 1969. Graphiquement, les couleurs sont vives, pop. Les moustaches sont celles de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction, un peu, vous voyez.
Il y a ce côté-là, vraiment.
Il y a des blondes hippies très libérées, des flics avec des impairs. Dans cet univers chatoyant, et bah va se dérouler un polar haletant. Une mallette est volée. Elle contient les comptes frauduleux d'un mafieux. On revit des scènes avec le point de vue de différents personnages dans l'intrigue. Au moment où on s'y attend le moins, les guns sortent et pam, trucident tous ceux qu'on pensait importants dans le scénario. Bah non, ça y est, ils sont morts. Bref, c'est un petit Tarantino que cette BD de Chercher Charlie, avec ce qu'il faut de vis, de coup tordu. On passe un chouette moment. En plus, à la fin de la BD, bah vous savez, il y a comme dans Papy fait de la résistance, on retrouve tous les personnages, mais 50 ans après.
Qui font le débris.
Voilà, exactement. Donc c'est très drôle, l'humour est noir.
Ramirez.
Et en plus, il y a des graphismes hauts en couleur. J'ai envie de dire, que demande le peuple. Voilà. Autre citation de Sébastien Bordenave.
Oui, c'est bien vu.
Et vous en avez une autre de citation ?
Oui, j'ai une citation de vous. Une citation de Titoff. Issu de l'album Lâchez-moi le slip, hein, sorti en 2000.
Grand classique.
Titoff est en cours de musique, il dit au prof « Mais monsieur, il postillonne sur ma guitare !» L'autre dit « Bah comme ça, elle sera moins sèche !»
Pas mal, la guitare sèche, bien. Héloïse, vous nous rappelez le titre de vos albums de Père Castor ?
Noix de coco et son ami, Le beau chardon d'Ali Boron, illustré par Nathalie Parrin.
Et Amandine Cole.
Ce que nous confions au vent de Laura Imaï Messina chez 10-18.
Parfait. Amandine qu'on retrouve à la librairie de Paris, à Paris, place de Clichy. Merci à tous les trois.
Merci Nicolas.
Ciao.
Merci Nicolas.
Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeche pour la programmation musicale et à la réalisation Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Dans un instant, Didier Barbelivien pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.